Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 novembre 2021. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Double attentat après le nom des talibans aux États-Unis. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, la tentative américaine de la prise d'otage d'un pétrolier iranien dans la mer d'Oman échouée. Les options envisageables US ont déjà été testées et la menace contre l'Iran ne fonctionne pas, a déclaré Téhéran. Et puis, nouvelle frappe israélienne sur Damas en Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Téhéran annonce avoir empêché les forces américaines de voler un pétrolier transportant du pétrole iranien dans la mer d'Oman. Le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI publiera bientôt des images de l'incident. Téhéran affirme que les forces américaines ont tenté de s'emparer d'un pétrolier qui transportait du pétrole iranien dans la mer d'Oman. Mais les forces navales du CGRI ont procédé à la capture du pétrolier menant une opération héliportée et ont conduit le navire vers les eaux territoriales iraniennes. Les forces américaines ont alors commencé à pourchasser le pétrolier en utilisant des hélicoptères et des navires de guerre, mais toutes leurs tentatives pour bloquer le chemin du pétrolier ou s'en emparer ont échoué. Le pétrolier est maintenant dans les eaux iraniennes. Les États-Unis ont l'habitude de créer de l'instabilité dans les eaux méridionales de l'Iran. L'Iran réaffirme que ce que les États-Unis appellent leurs options contre Téhéran se sont déjà tombées à l'eau par les défaites catastrophiques et humiliantes de Washington ailleurs dans la région. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a noté que le recours aux options qui font planer la menace militaire contre Téhéran n'a jamais fonctionné. Il a souligné que les États-Unis sont responsables du sort incertain de l'accord multilatéral nucléaire de 2015 à l'agonie depuis 2018. Lundi, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a déclaré que les signataires européens de l'accord conviennent avec les États-Unis que la diplomatie est la meilleure voie à suivre face à l'Iran. Blinken a ajouté qu'ils sont toutefois disposés à examiner toutes les options en cas d'échec des efforts diplomatiques. L'Iran et les autres parties à l'accord devraient tenir une nouvelle série de pourparlers dès la fin de ce mois pour lever les sanctions anti-Téhéran. Le président américain Joe Biden s'est dit prêt à revenir dans l'accord à condition que l'Iran renoue parallèlement avec ses engagements, mais l'Iran a une méfiance aiguë à l'égard de Washington et de ses partenaires européens. Et les responsables iraniens se sont demandé si on pouvait faire confiance aux Américains pour ne pas se retirer d'un nouvel accord comme ils l'ont fait avec l'original sous Donald Trump. Levé des sanctions, Téhéran appelle les 4 plus 1 à se préparer pour des négociations basées sur des intérêts mutuels. Le but des négociations n'est pas un pur verbiage, mais arriver à un accord tangible basé sur le respect des intérêts mutuels. Les 4 plus 1 devraient donc se préparer pour des négociations avec l'Iran basées sur le respect des intérêts et des droits mutuels, insistait le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran dans un message Twitter émis mardi. Selon l'IRNA, s'attardant sur le fait que les nouvelles sanctions des États-Unis contredisent leur volonté de revenir sur l'accord nucléaire, plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015, Hossein Amir Abdollahian a écrit sur son compte Twitter « La Maison-Blanche plaide pour des négociations avec l'Iran et se dit prêt à retourner au PGAC, mais impose en même temps de nouvelles sanctions aux particuliers et aux entreprises iraniennes. Nous évaluons attentivement le comportement de M. Biden », a-t-il précisé. Le but des négociations n'est pas de se lancer dans un simple verbiage, mais d'aboutir à un accord tangible dans le respect des intérêts mutuels, a-t-il conclu. Les États-Unis ont perdu leur place hégémonique, déclaration du vice-président iranien pour les affaires parlementaires. Aujourd'hui, les peuples du monde ont saisi qu'ils pouvaient se dresser contre les États-Unis et nous finirons par assister au déclin entier des États-Unis, a déclaré le vice-président iranien pour les affaires parlementaires. Sayed Mohammad Hosseini, s'exprimant à l'occasion de la 2e conférence internationale sur le déclin des États-Unis, évoque la journée nationale de la lutte contre l'arrogance qui s'approche en Iran et les débats sur le déclin des États-Unis pour dire « Aujourd'hui, les peuples du monde croient qu'ils peuvent tenir tête aux États-Unis et nous finirons par assister au déclin complet d'un pouvoir arrogant », a-t-il dit. Certaines personnes peuvent penser que ce que nous disons sur le déclin des États-Unis n'est qu'un slogan, ce alors que les penseurs occidentaux en discutent depuis des années et que les Américains eux-mêmes l'ont reconnu à maintes reprises. Pour beaucoup dans le monde, la prééminence des États-Unis dans l'économie mondiale n'a guère encore avérée et toutefois menacée, voire déjà abolie, au profit des nouvelles puissances émergentes telles la Chine, a-t-il souligné. L'actualité régionale, l'armée israélienne a visé mercredi la banlieue de Damas pour la 2e fois en 4 jours. La frappe aérienne a été lancée depuis le nord de la Palestine occupée mercredi matin. Les médias syriens, citant des sources militaires, ont confirmé une frappe au missile de l'ennemi israélien visant un poste dans la région de Zakiya, près de Damas. L'attentat a causé des dégâts matériels, rien n'a filtré sur les éventuelles pertes en vie humaine. Il y a quelques jours à peine, les systèmes de défense aérienne syriens ont intercepté des missiles sol-sol israéliens au-dessus de la même zone. 2 soldats ont été blessés lors de l'attaque. Israël lance fréquemment des frappes de missiles sur la Syrie qui demande maintenant une action des Nations Unies. Les attaques ciblent principalement les sites militaires syriens ainsi que les forces de la résistance du pays qui combattent les terroristes actifs dans le pays. Les terroristes Daesh ont revendiqué la responsabilité de l'attaque meurtrière du mardi contre le plus grand hôpital militaire d'Afghanistan. La capitale afghane Kaboul a été le théâtre d'une explosion mardi visant l'hôpital militaire Sardar Mohammad Daoud Khan, le plus grand établissement du genre du pays. L'explosion s'est produite devant l'hôpital, suivie d'une 2e explosion dans les environs du bâtiment et des coups de feu ont été entendus à l'intérieur de l'hôpital. Les talibans ont déclaré que 4 hommes armés avaient été tués tandis qu'un 5e avait été capturé. Au moins 25 personnes ont été tuées dans l'attaque et plus de 50 autres blessés. Les terroristes Daesh ont intensifié leurs opérations en Afghanistan ces dernières semaines. Ils ont particulièrement ciblé la minorité chiite du pays, tuant des dizaines d'entre eux dans les provinces de Kandahar et de Kunduz. Pendant ce temps, le Wall Street Journal indique qu'un nombre croissant d'anciens soldats formés aux États-Unis rejoignent le groupe terroriste. L'armée yéménite publie des images de ses dernières raids contre l'Arabie saoudite et ses mercenaires actifs dans le centre du Yémen. Le porte-parole de l'armée yéménite, Yahya Sari, a déclaré que les raids avaient été menés contre des cachettes ennemies dans les provinces de Baïda et de Ma'arib au cours de la 2e phase d'une opération baptisée « Printemps de la Victoire ». affirmant que leur aide comprenait des attaques sur le sol saoudien. Sari a déclaré que l'armée et les combattants alliés d'Ansar Allah avaient réussi à libérer complètement Baïda, région riche en pétrole située tout près de Ma'arib. Il a déclaré que les districts de Djouba et Jabal Mourad à Ma'arib sont désormais contrôlés par l'armée. Ma'arib est le dernier bastion des forces saoudiennes qui sont également soutenues par les Émirats arabes unis. L'armée yéménite s'est engagée à poursuivre ses opérations jusqu'à ce que le pays soit complètement libéré et que la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite mette fin à sa guerre contre le Yémen. Des familles palestiniennes refusent un accord proposé par Israël sur leur maison dans un quartier de la ville de Rhodes, affirmant que l'offre ne vise qu'à justifier l'occupation et bafouer encore plus leurs droits légitimes. Les familles palestiniennes habitant le quartier Sheikh Jarrah dans la ville d'Al-Rhodes ont annoncé leur rejet de l'offre de règlement proposée par la Cour suprême d'Israël concernant l'évacuation de leur maison dans le quartier au profit des colons. La militante palestinienne Mona Al-Kurd a lu une déclaration au nom des familles de Sheikh Jarrah menacées d'expulsion de leur maison, qui selon elle a été formulée après des discussions intensives qui ont duré plusieurs jours avec les avocats. Israël cherche depuis des mois à expulser 4 familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah et à donner leurs terres aux colons. Les familles disent que l'accord est injuste car il vise à les forcer à reconnaître la propriété des colons sur les terres palestiniennes. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, dit que rejeter l'accord est une bonne décision à prendre et qu'en agissant ainsi, ces familles évitent le piège politique tendu par Israël. Le Hamas demande à tous les Palestiniens de les soutenir. Ayant eu jusqu'au 2 novembre pour prendre leur décision, la Cour suprême d'Israël a proposé que les familles palestiniennes restent dans leur maison pendant 15 ans en échange d'un loyer. Enfin, les élections de mardi aux États-Unis, même s'il s'agit d'une année impaire, ne sont pas pour autant des affaires locales. En Virginie, le scrutin pour le poste gouverneur pourrait avoir des répercussions jusque dans le bureau du président Biden à Washington. Un an après avoir donné à Joe Biden une victoire convaincante sur Donald Trump, lors de l'élection présidentielle, les électeurs de la Virginie ont tourné le dos mardi au candidat de son parti, Terry McAuliffe, au poste gouverneur de leur État, ayant plutôt élu son rival républicain Glenn Youngkin. Dans le New Jersey, le républicain Jack Ciattarelli détient une avance sur son rival démocrate sortant, le gouverneur Phil Murphy. Pendant ce temps, des courses à la mairie sont également en cours dans plusieurs villes, dont Atlanta, Boston et Pittsburgh. La ville de New York a élu le démocrate Eric Adams comme nouveau maire. Les sondages mettent en fait la présidence de Joe Biden à l'épreuve avant les élections de mi-mandat de l'année prochaine. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Attentat après le nom des talibans aux États-Unis. Une quinzaine de personnes ont été tuées et 43 autres blessées par 2 explosions qui se sont produites devant l'hôpital Sardar Wazir Akbar Khan à Kaboul, a déclaré le porte-parole adjoint des talibans. La première explosion a été entendue à proximité de l'hôpital vers 13h, heure locale. Elle a été suivie de tirs, puis d'une deuxième explosion et de nouveaux tirs entendus depuis le quartier voisin. Selon nos informations initiales, une explosion est survenue à la porte de l'hôpital militaire et une deuxième aux abords de l'hôpital, a déclaré Balal Karimi, porte-parole adjoint des talibans. L'explosion a causé des victimes, a tweeté le porte-parole du ministère de l'Intérieur, précisant que les forces de sécurité talibanes étaient sur place. Un responsable des talibans a déclaré à l'AFP que 19 personnes avaient été tuées et une cinquantaine d'autres blessées. Le groupe terroriste Daesh vient de revendiquer la double explosion. Or, des témoins oculaires et affirment que des éléments de Daesh sont entrés dans l'hôpital après l'explosion qui s'est produite à la porte de l'établissement et se sont affrontés ensuite avec les talibans. Le double attentat de Kaboul intervient juste un jour après qu'un groupe d'éléments de Daesh se sont rendus aux talibans dans la province de Nangarhar. Plus tôt, les talibans ont dénoncé une campagne médiatique lancée par les États-Unis disant que d'anciens officiers militaires ou sécuritaires afghans auraient adhéré le groupe terroriste Daesh. Pour sa part, Washington semble essayer un nouveau moyen afin de sommer la division entre les Afghans. Dans la foulée, le Pentagone a annoncé lundi avoir retiré temporairement de son site web d'information visuelle des dizaines de milliers de photos et de vidéos d'Afghans qui ont soutenu les Américains et qui ont été jugés vulnérables aux représailles des talibans. L'attaché de presse du Pentagone a déclaré qu'à partir d'août, lors de l'évacuation dirigée par les États-Unis, toutes les images montrant les visages ou d'autres caractéristiques identifiables d'Afghans vulnérables avaient été supprimées. Il a déclaré que les images seront rendues au domaine public lorsqu'elles seront jugées sûres. John Kirby, l'attaché de presse du Pentagone, a déclaré que 124 000 photos et 17 000 vidéos avaient été supprimées et archivées sur le service de distribution d'informations visuelles de la Défense. C'était une entreprise gigantesque et cela nous a pris beaucoup de temps, près de 2 mois, a déclaré Kirby, ajoutant qu'elle n'était pas encore terminée. Nous l'avons fait par excès de prudence, par respect pour l'obligation que nous avons envers ces personnes et leurs familles, et au bon moment, le moment venu, nous republierons absolument ces images, a-t-il dit. Kirby a déclaré que sa décision était conforme à la préoccupation de l'ensemble du gouvernement américain, selon laquelle les talibans chercheraient à exercer des représailles contre les Afghans qui avaient aidé les États-Unis pendant sa guerre de 20 ans. Ces préoccupations étaient valables et nous ne nous présentons aucune excuse pour avoir pris cette décision. Je pense toujours que c'était la bonne chose à faire, a-t-il dit.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, de la façon dont cette rencontre s'est déroulée et bien sûr ses répercussions. L'opposition française n'a pas hésité de qualifier cette rencontre de humiliante, totale. Et justement, pourquoi ? Car la crise des sous-marins de l'Australie, un contrat important militaire volé sous le nez de la France par les États-Unis, a rendu évidemment la France très en colère. Mais pas suffisamment, semble-t-il, car Emmanuel Macron a déclaré que cette crise diplomatique était derrière eux. Alors, l'opposition a également dit que les États-Unis se sont essuyés les pieds sur la France, des mots très durs pour la France qui donc semble passer très facilement, car nous allons voir justement dans ce débat ce qui a poussé la France à oublier si facilement ce coup dur porté à son économie militaire par les États-Unis. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Lors d'une rencontre avec Joe Biden, Emmanuel Macron a laissé entendre que la crise diplomatique était derrière eux et que désormais c'était l'avenir qu'il fallait regarder. Une séquence diplomatique critiquée par une partie de l'opposition. Quelques semaines après la crise des sous-marins australiens, lors de leur rencontre le 29 octobre à Rome, les présidents français et américains ont fait part de leur enthousiasme quant à la bonne évolution des relations entre leurs deux pays. Comme si le camouflet n'était qu'un lointain souvenir, Emmanuel Macron a joué l'apaisement. « Nous avons clarifié ce que nous avions à clarifier », ainsi déclarait le président français, puis d'ajouter avec optimisme « C'est l'avenir qu'il faut regarder ». Joe Biden a confessé pour ses parts que les États-Unis avaient été maladroits avant de donner une étape amicale à son interlocuteur. Une séquence diplomatique fortement critiquée par de nombreux membres de l'opposition. À gauche, le sénateur du Parti socialiste, Rachid Temal, s'est questionné sur les propos du président américain qui évoque une simple maladresse dans ce dossier. J'imagine si les États-Unis avaient été habiles alors. Tout cela ressemble bien à une deuxième humiliation, sans broncher, a dénoncé sur Twitter le parlementaire. Le sénateur PS et porte-parole d'Arnaud Montebourg, Michael Vallée, est pour sa part revenu sur la déclaration de Joe Biden qui a également assuré que la France était l'allié le plus ancien et le plus loyal des États-Unis. « Je vous raconte pas si on n'avait pas été le plus ancien et le plus loyal », a ironisé le parlementaire. Le président de République souveraine et candidat à l'élection présidentielle de 2022, Georges Kuzmanovic, a évoqué une farce. Il a également considéré que Macron n'avait pas réagi en président d'une nation indépendante lorsque les États-Unis se sont essuyés les pieds sur la France lors du scandale des sous-marins. Le maire LR des Maisons Lafitte, Jacques Millard, a vu dans la rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden comme du cinéma hollywoodien avec des larmes de crocodile du côté américain et du « Embrassons-nous, Folleville » côté Macron, qui proclame « Regardons l'avenir », lequel sera à l'aune de la volonté de Washington.
Chers amis, vous regardez l'émission Le Débat à présent. J'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour. Je vous entends, oui. Et je vous salue ainsi que vos invités et votre invité et tous nos auditeurs.
C'est un plaisir de vous recevoir, Pierre Dortiguier. Un grand bonjour également à monsieur Fabrice Béor, expert à l'ONG EOD depuis Moscou. Bonjour monsieur Béor.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Fabrice Béor. Alors, l'opposition très en colère, l'opposition française à l'égard de cette rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, alors qu'on s'attendait à ce qu'après la crise diplomatique, c'est-à-dire les sous-marins de l'Australie, un contrat très important volé sous le nez de la France par les États-Unis. Au lieu de cela, Emmanuel Macron, au lieu d'exercer sa colère, rencontre Joe Biden comme rien ne s'était passé.
Cette affaire, c'est une farce et révélateur de la nature aujourd'hui, non pas de l'État français, mais de la classe politique française en général. Je m'explique en deux points très rapidement. C'est une farce entre Macron et Biden, parce qu'on sait très bien que la France, après ses cris de coq effarouchés, s'est totalement alignée, allongée face à la volonté américaine. Aucune compensation, même d'un point de vue, médiatique, de communication, ça fonctionne très mal, parce qu'on voit bien que c'est simplement que la France s'est totalement alignée. Mais devant les cris d'Orphée, c'est le deuxième point que je veux aborder, qui est à mon avis le plus intéressant en réalité. On voit beaucoup d'hommes politiques français, au niveau de la majorité, on va dire, et de l'opposition critiquer effectivement cette position américaine. Mais pour autant, il ne se pose jamais la question pourquoi la France voulait vendre des sous-marins à l'Australie et se mettre à dos la Chine. Quel est l'intérêt de la France dans l'histoire? Aucun, à part si ce n'est l'alignement à la politique américaine. Donc, aujourd'hui, on voit ces gens s'offusquer d'avoir un comportement et que la France s'aligne totalement sur les États-Unis, mais la France est dans l'OTAN. Elle est dans un état de soumission. S'ils étaient logiques, ils devraient réclamer le départ de la France de l'OTAN et non pas du commandement intégré, comme par exemple le candidat soi-disant souverainiste M. Zemmour. Donc je résume, c'est une comédie effectivement, c'est un théâtre démocratique diplomatique qui ne cache pas la vassalisation de la France dans le cadre de l'OTAN, et on voit cette classe politique en général, même d'opposition, qui ne remet pas en cause la raison justement de cette situation, à savoir que la France est dans l'OTAN et que donc elle se soumet à la politique américaine. C'est ça la vraie question, et pourquoi continuer à être dans l'OTAN lorsque les États-Unis traitent de cette façon, et en plus, la France, quand elle-même, la classe politique française essaye de s'extraire de cette politique américaine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle y plonge encore plus en voulant vendre des sous-marins à un pays qui est en fait une extension de l'armée américaine pour faire face, d'un point de vue militaire, à la Chine, quelque chose qui cloche, allons-nous dire. Peut-être faudrait-il comprendre que la classe politique française, qu'elle soit dans l'opposition au gouvernement, fait partie de ce qu'on appelle le parti américain. Après, c'est juste une question de nuance et on place l'élément qui permet de savoir si on est plus ou moins atlantiste ou pas. Mais ça ne change pas le fond. Le problème de la France, c'est qu'elle est atlantiste.
D'accord. Pierre Dortiguier, vous êtes politologue depuis Toulouse. Merci d'être avec nous déjà. Alors, Pierre Dortiguier, il semble que la France s'est habituée à être trahie par les États-Unis, car après cette rencontre, on se rend compte que la France n'a rien à dire et dit tout simplement que cette crise diplomatique qui existe toujours est derrière eux.
Oui, c'est-à-dire que j'ai très bien entendu ce qu'a dit notre correspondant de Moscou. Je pense que je suis d'accord avec lui sur ce parti américain qui est général, que ce soit celui du gouvernement ou celui de l'opposition. Je fais d'ailleurs remarquer que le Parti socialiste, qui a été cité, a été un des plus pro-américains de toute l'histoire. Disons que c'est lui qui nous a, avec Mitterrand, par exemple, demandé en 1966, je m'en souviens très bien, protester, demander, disons, notre maintien dans l'OTAN. Bon, dans ce centre de, disons, dans cette alliance militaire. Je relève aussi, permettez-moi avant de répondre, que dans cette affaire des sous-marins, il est certain que la France n'a pas protesté, par exemple, contre le fait, n'a pas refusé, disons, de rentrer dans une alliance dirigée, bien sûr, comme chacun le voit, contre la Chine, c'est vrai. Sur le fond technique, sur le plan technique, je crois que les Français ont eu tort, quand même, ça ne s'est jamais relevé, c'est-à-dire que nous avons proposé des sous-marins à propulsion diesel, alors que l'armée, les militaires australiens demandaient des sous-marins à propulsion nucléaire pour l'horizon, disons, 2030-2050, comme l'a très bien expliqué, d'ailleurs, un responsable militaire. De ce côté-là, je dois dire que par réalisme, je dis bien par réalisme, je trouve que ce sont les Australiens, bien sûr, qui ont raison. Et nous aurions adopté la même attitude, d'ailleurs, si ça avait été l'inverse. Il faut donc voir, disons, quel est le sens de ces relations entre les États-Unis et la France. Ces relations ont été d'abord demandées par les Français eux-mêmes. Il faut le dire, il faut remonter très loin, à la fin de la guerre de 1914-18, quand nous avions de la peine à soutenir les forces de guerre, c'est nous qui avons fait entrer les Américains, évidemment, dans cette guerre mondiale. Nous avons ensuite bien admis les Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Bien, tout ceci, disons, mériterait d'être revu en entier, toute une vision de l'histoire à revoir. Et il est certain que nous sommes enchaînés pour toujours, par le destin, je dirais, à la politique américaine. Celui qui a essayé de s'en extraire partiellement, ça a été le président de Gaulle. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a eu comme réponse? La GIF de 1968, organisée par la gauche et le Parti socialiste, évidemment, il a été obligé de démissionner dans des conditions d'ailleurs honteuses. Bien, honteuses pour la France, je veux dire. Ceci dit, nous sommes enchaînés donc à cette politique. Je crois que les protestations dont on fait état, venant du Parti socialiste en particulier et d'autres, ne sont que des manifestations préélectorales, voyez-vous. Ce qu'il y a, c'est que la France devrait, c'est ma conclusion, justement essayer de retrouver ce qui a été un peu notre politique entre les années 1964 et 1966, c'est-à-dire trouver une défense commune, par exemple envers l'Allemagne. Mais malheureusement, ces pays-là, l'Allemagne en particulier, a été soumise justement à des contraintes, voyez-vous, a été humiliée sur le plan politique. Donc nous nous retrouvons seuls, nous nous retrouvons dans l'incapacité, je dirais idéologique, l'incapacité même matérielle, à assurer notre propre indépendance. Et ceci est un destin. Je veux dire par destin que c'est la conséquence de fautes accumulées depuis longtemps. La France est faible. Elle ne peut pas sortir de cette situation-là. Notre américanisation, entre guillemets, bien sûr, est un état d'esprit, voyez-vous. Que l'Amérique soit forte, c'est vrai. Que l'Amérique veuille commander à l'Occident, c'est un fait. Quels sont les responsables? Moi, je dirais que les responsables sont ceux dans la politique française qui, depuis, bien sûr, cette Première Guerre mondiale,
d'accord,
nous ont entraînés dans une fausse voie.
Tout à fait. Fabrice Béor, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Dortiguier quand il parle d'une politique enchaînée de la France envers les États-Unis? Est-ce que la France a le choix d'être un pays indépendant et loyal?
Enchaîné, oui. Est-ce qu'elle a le choix? Évidemment, elle a toujours le choix. On dit toujours, ils ne sont forts que de nos faiblesses. Il suffit d'affirmer, d'avoir confiance en soi, c'est déjà le premier pas vers la souveraineté. Le chemin vers la souveraineté, tout du moins. Maintenant, je ferai quand même remarquer une chose, c'est que beaucoup, et dans le cadre aujourd'hui de la campagne électorale présidentielle française qui est déjà entamée, que la France revenir à une neutralité de la France et qu'il faudrait qu'elle tienne la main à la Russie et puis en même temps aux États-Unis. Alors oui, ça c'était possible pendant la guerre froide. Ce n'est plus la guerre froide d'avant la chute de l'URSS, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis, dans leur rapport avec, entre guillemets, leurs alliés, c'est un rapport de soumission. Il ne peut pas y avoir de juste milieu. Bien que le monde soit gris, pour eux, il est blanc ou noir. Tu es avec nous ou contre nous. Il ne peut pas y avoir même d'alliés de circonstance. Sauf qu'on voit bien ce qui s'est passé en Afghanistan, on voit très bien ce qu'ils font avec leurs alliés de circonstance. Donc, aujourd'hui, une position qui se dit « je me dégagerai de l'OTAN, mais en étant toujours ami », c'est un peu comme si on disait « je suis ami avec Trump et je suis ami avec Poutine ». Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas aller ensemble, puisque géopolitiquement, ce sont deux ennemis irréconciliables. La géopolitique, c'est pas l'idéologie, c'est pas l'opinion, c'est pas les sensations, c'est pas l'émotion. Ce sont des faits. Et les faits, surtout dans la géopolitique nord-américaine, qui est écrit noir sur blanc, mais beaucoup de Français, même de la classe politique française, ne lisent pas l'anglais, ou ne lisent pas du tout d'ailleurs, ne se rendent pas compte que, pour les États-Unis, aujourd'hui il y a la Chine évidemment, mais la Russie reste l'ennemi principal. Donc on ne peut pas être ami avec les États-Unis et avec la Russie. Donc si la France, pour revenir à votre question, veut être, retrouver son indépendance, elle doit sortir de toutes les structures qui l'empêchent d'être indépendant. Donc au-delà des institutions européennes, qui est un problème annexe, bien que ce soit aussi important, l'essentiel, puisque combien de chars, allons-nous dire, le problème, c'est l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN, pas du commandement intégré. On est dedans ou on est dehors. Si on est dedans, autant être dans toutes les structures, comme à l'heure actuelle. Mais si on veut se soustraire à l'influence américaine, il faut en sortir intégralement, pas rester dans le commandement intégré comme ça l'était auparavant, et comme le proposent certains candidats à l'élection présidentielle. Et lorsqu'on en est dehors, évidemment, on devient un ennemi des États-Unis. Ce pourquoi la France doit à ce moment-là réorienter sa politique vers l'Est. Et vers l'Est, c'est vers le bloc eurasiatique, vers Moscou, vers Pékin, vers Téhéran. C'est cela, il n'y a pas d'autre choix possible. Les autres choix possibles, ce n'est que de la communication, ce n'est que du verbiage, mais ce n'est pas quelque chose de sérieux. On est aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le bloc occidental et le bloc qu'on peut appeler de l'Est, que moi j'appelle le bloc eurasien, qui comprend donc les trois pays que je viens de citer, la Russie, la Chine et Téhéran, qui n'est pas, comme l'OTAN, un groupe avec des accords, on va dire, aussi forts qu'il puisse y avoir à l'OTAN, mais justement parce que c'est un bloc qui respecte la souveraineté de chacun des États, mais qui se soutient dans le cadre de la confrontation géopolitique actuelle. Et si la France veut être indépendante, elle ne peut être indépendante que si elle est proche de ce bloc eurasiatique. Et ça a toujours été d'ailleurs ses alliances en général dans le cadre de l'histoire européenne. Et depuis qu'elle a oublié, Eh bien, effectivement, elle s'est soumise au vainqueur, à celui qui occupe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'Ouest européen et même maintenant, on va dire, l'Europe continentale. Et quand on est évidemment soumis aux décisions de l'OTAN, c'est-à-dire à la politique étrangère américaine, on ne peut prétendre, même en parole, d'être indépendant. La voie de la France est toute tracée. Soit c'est une voie d'accord avec le bloc eurasiatique, soit elle continue dans la soumission. L'entre-deux, ça n'existe pas aujourd'hui.
Très juste, Fabrice Péor. Pierre Lortiguier, un mot tout de même sur cette relation entre la Grande-Bretagne et la France. C'est vrai que tout récemment, les États-Unis se sont rapprochés de la Grande-Bretagne concernant les sous-marins de l'Australie. Et de l'autre côté, ils font semer la discorde entre la Grande-Bretagne et la France concernant la pêche. Et maintenant, ils s'approchent vers la France avec cette grande rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Réagissez-vous, je vous prie.
Politique, disons, peut-on dire anglo-saxonne envers la France, est classique, elle est continue. C'est-à-dire que les pays anglo-saxons ne cherchent que leurs propres intérêts. C'est exact. Ils l'ont montré, je parle toujours des deux guerres mondiales, ils l'ont montré ainsi. Et la France, disons, ne peut. La France, la question est la suivante. A-t-elle les moyens d'une ambition politique? A-t-elle la capacité industrielle, la capacité morale aussi de faire face à cela, de dominer, disons, de dominer une vision du monde? Je ne crois pas. Je m'explique. C'est-à-dire que nous réagissons, voyez, nous, bien sûr, mais nous n'avons pas les moyens de prendre des initiatives et d'agir. Ceci impliquerait une grande force dans le tissu industriel, une grande force également dans, peut-on dire, l'instruction publique, dans la formation idéologique, si je puis me permettre, dans le bon sens du terme. Or, tout ceci, nous n'avons pas. Nous sommes une société, en réalité, profondément, entre guillemets, je le répète, américanisée. Ça, c'est une grave faute. Et je crois que c'est sur ce plan idéologique, c'est sur ce plan moral que nous avons le plus grave déficit. Alors, pour répondre à votre question, il est certain que les relations entre nous et la Grande-Bretagne, par exemple, seront toujours des relations qui ne pourront pas être des fusions. Nous avons eu toujours des conflits d'intérêts. Ce n'est pas le même tempérament. Il y a un côté réaliste et dominateur de la Grande-Bretagne qui ne correspond pas à un côté réaliste des Français. Je crois que, je reprends, c'est une idée qui est celle de ma génération. Nous avons connu, par exemple, l'alliance, la coopération franco-allemande avec De Gaulle. Il est certain que la France pourrait avoir, en effet, comme le dit votre correspondant de Moscou, une attitude, disons, de dégagement de l'OTAN et de rapprochement avec l'Est, mais ceci ne peut se faire qu'avec l'accord de pays européens. Et là, ce sera ma conclusion, nous payons très très cher notre politique des deux guerres mondiales, surtout de la première, dans laquelle nous sommes alliés en Angleterre, contre des intérêts communs qui étaient les intérêts de l'Europe de l'époque.
Donc, Pierre Lortiguier, la France n'a plus le moyen d'être un pays indépendant et va continuer à se soumettre au désir des États-Unis.
Oui, exactement. Permettez-moi cette comparaison dramatique. Comme un malade, par exemple, qui est sur un lit d'hôpital, a besoin de médicaments. Eh bien, ces médicaments nous sont fournis par les Américains. Nous n'avons plus la capacité d'assumer la vie par notre propre souffle, si je puis dire. Ce sont des images que je vous donne. Mais malheureusement, nous pouvons le dire, disons, ma génération, je puis me permettre, peut le dire parce qu'elle a connu, dans les années 60, un espoir. Elle a vécu, justement, ce rêve-là. Et ce rêve a été cassé. Malheureusement, il a été cassé par la gauche, il a été cassé par le Parti socialiste. N'oublions pas deux choses, c'est que l'arrivée de l'idéologie socialiste au pouvoir, qui est celle aujourd'hui aussi de M. Macron, elle a permis le maintien dans l'OTAN, elle a permis aussi, je dirais une chose qui me vient à l'esprit, mais je me rappelle de M. Mitterrand allant s'excuser à la Knesset, en Israël, de la politique française, voyez-vous. Tout ceci, cette même gauche qui avait fait toutes nos politiques coloniales, qui a été la plus avancée, disons, dans l'asservissement, voyez-vous, aux Américains, eh bien, je ne crois pas que, malheureusement, que celle-ci, cette gauche qui est toujours dans les esprits, c'est pas une question de parti politique, voyez-vous, cette sorte de manque de courage, si je puis dire, qui nous caractérise, qui caractérise surtout la génération actuelle, je le dis avec sévérité, mais c'est exact, eh bien, évidemment, elle ne peut pas permettre, disons, ces bonnes idées, ces bonnes relations que notre correspondant de Moscou a donné, nous pouvons le dire en paroles. Mais il n'y a pas que les paroles, il y a également la capacité, c'est ce qu'on appelle le courage, si je puis dire. Ça, ce courage-là nous fait défaut, et malheureusement, nous serons entraînés dans ce conflit inévitable, ce sera ma conclusion, entre l'Est, entre l'Ouest et l'Est, que votre correspondant a marqué. Personnellement, j'y crois, c'est malheureusement une fatalité, et je ne crois pas que la France y soit préparée.
Fabrice Péor, est-ce que vous voulez bien réagir et conclure, je vous prie?
Oui, je porterai un bémol quand on dit le socialisme. Non, la gauche social-démocrate. Le socialisme, c'est une idée plus large et qui n'est pas responsable des social traites qui ont été nommées auparavant, qui effectivement étaient responsables de la colonisation et qui effectivement, face à De Gaulle, ont tout fait pour trouver dans les États-Unis un allié pour arriver au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir, on ne va pas parler après des French American Production et tout. Mais oui, maintenant, si, il y a toujours un espoir, même s'il est très faible, mais il ne peut exister pour la France de la classe politique. Qu'elle soit au pouvoir, qu'elle soit aux extrêmes, c'est cette même idéologie, effectivement, tout. Donc c'est une solution pour choc. Nietzsche disait que l'Europe se... Je ne parle pas d'une européenne, bien évidemment. Je pense que les gens, malheureusement, je dis bien malheureusement, réagiront, comprendront, refuseront cette propagande, parce qu'en France, la culture géopolitique historique aux relations internationales est très très faible, si ce n'est nulle, réagiront lorsqu'ils auront pu s'abonner à Netflix et ils auront pu assez pour nourrir leur famille dans le frigo. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle se trouve. Malheureusement, la France, aujourd'hui, d'un point de vue industriel, n'a plus la force de sa prétention, et elle a une classe politique qui est totalement alignée et qui a démissionné. Ça commence à partir en fait de Giscard d'Estaing, qui ne croit plus dans le destin de la France. Quand vous avez des élites qui ne croient plus dans le destin de la France, vous avez aujourd'hui le résultat, un pays qui devient satellite du bloc occidental, c'est-à-dire l'impérialisme américain, et qui de temps en temps peut avoir quelques petits soubresauts, mais c'est des soubresauts du malade qui a des convulsions, avant de trépasser. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Ce pourquoi, aujourd'hui, je l'ai dit, et ça va ma conclusion, pour l'Europe, l'espoir, il est à l'Est, et la capitale s'appelle Moscou.
Fabrice Béor, expert à l'ONG EOT, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Comment la conférence de Glasgow impactera l'économie mondiale? L'Union européenne reconnaîtra-t-elle ses erreurs dans la politique énergétique et renoncera-t-elle à la politique intense de décarbonisation? Quelle position sera adoptée par la Russie et les États-Unis? Forceront-ils la transition énergétique en renonçant aux hydrocarbures? Telles sont les principales intrigues de la conférence de Glasgow. La 26e conférence des parties de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques, COP26, a commencé le dimanche 31 octobre à Glasgow. Les médias l'ont qualifié de potentiellement fatidique, car on s'attend à ce que les dirigeants des puissances mondiales s'entendent sur une lutte plus résolue contre les émissions de CO2. En même temps, les pronostics ne sont pas rassurants. Il ne sera pas possible de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés centigrades. Toutefois, il est possible d'essayer de combiner l'accomplissement des promesses dans le domaine des accords commerciaux avec une utilité pour le climat. C'est ainsi que les États-Unis et l'Union européenne ont présenté leur accord qui permettra de livrer aux États-Unis sans taxe jusqu'à 3,3 millions de tonnes d'aluminium et d'acier par an. Bruxelles et Washington, presque un an après le départ de Donald Trump, commencent à se débarrasser de son patrimoine. À la veille de la COP26, les parties ont conclu un accord important, simplifiant considérablement l'accès de l'aluminium et de l'acier européen sur le marché américain. La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, n'a pas dévoilé de détails, mais a noté que la taxe de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium resterait en vigueur après une certaine quantité de livraison. Selon des sources américaines, cette quantité s'élève à 3,3 millions de tonnes de métal. Toutefois, cet accord représente un intérêt pour les États-Unis, car en décembre, l'Union européenne devait augmenter les taxes sur les motos Harley-Davidson, les bateaux à moteur et d'autres produits américains. Entre autres, après la hausse des prix d'acier, l'industrie américaine a besoin de réduire les dépenses pour les matières premières. Selon les estimations de l'agence Bloomberg, au niveau bilatéral, il pourrait être question d'une suppression des taxes pour un total de 10 milliards de dollars. C'est une chance tout à fait réelle pour l'Europe d'augmenter les exportations, qui chutaient significativement après les actions de Donald Trump. Avant l'adoption de taxes, l'Union européenne exportait 5 millions de tonnes d'aluminium, et ce chiffre avait été divisé par 2 en 2020. Au final, Washington a porté préjudice à Pékin en augmentant habilement l'accord, même si on ignore encore quel sera la préjudice pour les fabricants d'acier et d'aluminium aux États-Unis même. Le conseiller du président américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré au sujet de cet accord qu'il permettrait de réduire l'influence de la Chine dans ce secteur et concerne aussi bien la surproduction en Chine que les émissions de carbone dans le secteur d'acier et d'aluminium. Et d'ajouter que l'accord permettrait non seulement de protéger les droits des travailleurs, mais également de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, car en Chine, la marchandise est fabriquée dans des fours carbone. Les ONG restent sceptiques sur la nouvelle initiative contre la déforestation. Préserver les forêts pour sauver le climat. Une centaine de pays, dont certains pointés du doigt pour une déforestation intense, comme le Brésil, ont pris cet engagement solennel mardi à la COP26, mais leur promesse est jugée trop molle par les défenseurs de l'environnement. L'initiative, qui bénéficiera d'un financement public et privé de 19,2 milliards de dollars sur plusieurs années, est essentielle pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré centigrade par rapport à l'ère pré-industrielle, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de l'événement. Parmi les signataires figurent la Chine, la Russie, la France, l'Australie ou les États-Unis. Le nouvel engagement contre la déforestation fait écho à la déclaration de New York sur les forêts de 2014, quand de nombreux pays, entreprises et peuples autochtones s'étaient engagés à diviser par deux la déforestation en 2020 et d'y mettre fin en 2030. Mais pour des ONG comme Greenpeace, l'objectif de 2030, mis en exergue mardi, reste beaucoup trop lointain et donne le feu vert à une décennie supplémentaire de déforestation. Global Witness a dit craindre de voir se répéter les échecs de précédents engagements similaires en raison d'un financement insuffisant et d'un suivi incertain de la parole donnée. Les humeurs avant le sommet de la COP26 deviennent de plus en plus pessimistes. Il n'y a pas d'informations sur la préparation d'un accord vraiment révolutionnaire entre les dirigeants. D'après le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, la production d'hydrocarbures dans le monde augmentera de 110% d'ici 2030 et il sera impossible de stopper le réchauffement global à hauteur de 2 degrés centigrades. Même le Premier ministre britannique a dit douter que le résultat du sommet organisé par son pays soit satisfaisant, alors que les appels à stopper le réchauffement global à hauteur de 1,5 degré centigrade du président de la COP26 et ministre britannique de l'énergie semblent utopiques. Dans l'ensemble, l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne correspond tout à fait à l'esprit du mondialisme. En ce qui concerne les taxes, il faut savoir que les États-Unis importent plus qu'ils ne produisent. Donald Trump voulait contribuer à l'industrie américaine, mais Joe Biden est moins disposé à soutenir la production nationale. Par conséquent, les États-Unis ont besoin d'acheter davantage à l'étranger et la décision de réduire les taxes s'impose notamment dans l'intérêt de ses propres consommateurs. Le sommet climatique risque de devenir trop politisé, tout comme l'agenda vert dans l'ensemble.
Thank you.